Chapitre 23. Au milieu de la nuit, sa décision était prise. Il avait résolu de s'enfuir dans la montagne, puis, avec les abases qui lui étaient dévoués, de fondre sur Veden, et là, ou mourir, ou délivrer sa famille. Hadji Mourad ne décida pas si, après la délivrance de sa famille, il retournerait chez les Russes, ou s'il s'enfuirait avec les siens à Kunzak, et continuerait sa lutte contre Chamil. Mais ce qu'il savait indubitablement, c'est qu'il fallait tout de suite s'enfuir des Russes dans la montagne. Et, immédiatement, il commença à mettre à exécution cette résolution. Il prit de dessous le coussin son beshmet noir, ouaté, et alla dans le local de ses serviteurs. Il demeurait à l'autre extrémité du vestibule. Aussitôt qu'il entra dans le vestibule, dont la porte était ouverte, la fraîcheur de la nuit de lune le saisit. Et en même temps, ses oreilles furent frappées du sifflement et du chant de quelques rossignols dans un jardin voisin. Arrivé au bout du vestibule, Hadji Mourad ouvrit la porte de la chambre de ses serviteurs. Il n'y avait pas de lumière, seul le croissant de la jeune lune éclairait à travers la fenêtre. La table et deux chaises étaient repoussées d'un côté, et les quatre serviteurs étaient couchés sur des tapis et des manteaux étendus sur le plancher. Kanefi couchait dans la cour avec les chevaux. Gamzalo, ayant perçu le grincement de la porte, se dressa et se retourna vers Hadji Mourad, et, l'ayant reconnu, il se recoucha. Quant à Eldar, qui était couché à côté de lui, il se leva d'un bond, et aussitôt endossa son beshmet, attendant les ordres. Khan Magom et Bata dormaient. Hadji Mourad posa son beshmet sur la table, et le beshmet, en touchant le bois, rendit un son comme si on avait posé sur la table quelque chose de dur. C'étaient les pièces d'or qui étaient cousues à l'intérieur. « Couds celle-ci aussi, » dit Hadji Mourad, en remettant à Eldar l'or qu'il avait reçu ce même jour. Et se mettant à l'endroit éclairé, il tira de dessous son poignard un canif et se mit à découdre la doublure du beshmet. Gamzalo se dressa et resta assis sur ses jambes croisées. « Et toi, Gamzalo, ordonne aux hommes d'inspecter les fusils, les pistolets, de préparer les cartouches. Demain, nous irons loin, » dit Hadji Mourad. « Il y a des balles, de la poudre, tout sera prêt, » dit Gamzalo, et il hurla quelque chose d'incompréhensible. Gamzalo avait compris pourquoi Hadji Mourad ordonnait de nettoyer les fusils. Depuis le premier jour, il ne désirait qu'une chose, frapper, tuer le plus possible de ces chiens de Russes et s'enfuir dans la montagne. Et, de jour en jour, ce désir s'était fortifié en lui. Maintenant, il voyait que Hadji Mourad désirait la même chose, et il en était heureux. Quand Hadji Mourad se fut retiré, Gamzalo éveilla ses compagnons, et tous les quatre, durant toute la nuit, examinèrent les fusils, les pistolets, les chabraques, les briquets, remplaçant les mauvais, mettant de la poudre fraîche, aiguisant les sabres et les poignards, graissant de suif l'acier. Avant l'aube, Hadji Mourad alla de nouveau dans le vestibule pour prendre l'eau nécessaire à ses ablutions. Là, on entendait encore plus fort et plus fréquemment que le soir les rossignols qui chantaient à plein gosier avant le lever du soleil. Et de la chambre des serviteurs arrivait le sifflement régulier de l'acier sur la pierre, des poignards qu'on aiguisait. Hadji Mourad prit de l'eau du seau, et déjà il approchait de sa porte quand il entendit dans la chambre de ses murides, outre le bruit de l'acier contre la pierre à aiguiser, la haute voix de Kanefi qui chantait une chanson bien connue. Hadji Mourad s'arrêta et prêta l'oreille. Cette chanson disait comment le cavalier Gamzat, avec ses camarades, avait enlevé aux Russes un troupeau de chevaux blancs. Comment, après, les princes russes les avaient rejoints derrière le Terek et les avaient cernés avec une armée grande comme la forêt. La chanson disait encore comment Gamzat, après avoir tué les chevaux avec ses camarades, se cacha derrière la tranchée sanglante des chevaux tués, et comment il combattit contre les Russes tant qu'il y eut des balles dans les fusils, des poignards aux ceintures et du sang dans les veines. Mais, avant d'expirer, Gamzat, apercevant des oiseaux dans le ciel, leur cria « Volez vers nos maisons et dites à nos sœurs, à nos mères, à toutes les filles blanches, que nous sommes tous morts pour le Kazavat, la guerre sainte. Dites-leur que nos corps n'auront pas de sépulture, mais que les loups affamés disperseront et nettoieront nos os, que les corbeaux nous arracheront les yeux. » Ainsi se terminait la chanson, et à ces derniers mots, chantés sur un air triste, la voix énergique du joyeux Bata se joignit à celle de Kanefi, et, tout à la fin de la chanson, il s'écria « Lailaka, Iliaka !» et fit entendre un sifflement perçant. Ensuite, les chansons cessèrent, et de nouveau, on n'entendit plus que le chant du rossignol dans le jardin, et à travers la porte, le sifflement de l'acier glissant rapidement sur la pierre. Hadji Mourad devint si pensif qu'il ne remarqua pas qu'il avait incliné sa cruche et que l'eau coulait. Il secoua la tête, mécontent de lui-même, et retourna dans sa chambre. Après avoir fait son ablution du matin, Hadji Mourad s'assit sur son lit et se mit à examiner ses armes. Il n'y avait plus à hésiter. Pour partir, il fallait demander l'autorisation du commissaire de police, et dans la cour il faisait encore noir et le commissaire dormait encore. La chanson de Kanefi lui avait rappelé la chanson composée par sa mère. « Ton poignard aigu a déchiré ma poitrine blanche, mais moi, j'ai approché de cette blessure mon soleil, mon petit garçon. Je l'ai lavé avec mon sang chaud, et la blessure s'est fermée sans herbe ni racine. Je n'ai pas eu peur de la mort, et mon fils, qui sera brave, lui non plus n'en aura pas peur. » Cette chanson, adressée au père de Hadji Mourad, sa mère l'avait composée après le coup de poignard qu'il lui avait donné parce qu'elle refusait d'abandonner son fils pour aller nourrir le fils du Khan. Et Hadji Mourad se rappelait sa mère quand elle le couchait à côté d'elle, dans sa pelisse, sur le toit de la cabane, et lui chantait cette chanson. Il se rappelait la fontaine, au pied de la montagne, où, s'accrochant au pantalon de sa mère, il allait avec elle puiser de l'eau. Il se rappelait la première fois qu'elle lui avait rasé la tête, et comment alors il aperçut avec étonnement sa tête bleuâtre dans le plateau de cuivre brillant, suspendu au mur. Il se revoyait tout petit, et il se rappelait son fils préféré, Youssouf, auquel lui-même, pour la première fois, avait rasé la tête. Maintenant, ce même Youssouf était un jeune et beau cavalier. Il se le rappelait tel qu'il l'avait vu la dernière fois. C'était le jour qu'il était parti pour Tselmès. Son fils lui avait amené son cheval et lui avait demandé de l'accompagner. Il était habillé pour la route, armé, et tenait son cheval par la bride. Son visage rouge, jeune, beau, et toute sa personne, haute, élégante, il était plus grand que son père, respirait la bravoure, la jeunesse et la joie de vivre. Ses épaules larges, malgré sa jeunesse, ses hanches juvéniles, fortes, sa taille fine, longue, ses bras longs et forts, et la force et l'agilité de tous ses mouvements réjouissaient toujours Hadji Mourad, qui admirait son fils. « Il vaut mieux que tu restes. Maintenant tu es seul à la maison. Veille sur ta mère et ta grand-mère, » lui avait dit Hadji Mourad. Il se rappelait l'expression de bravoure et d'orgueil qu'avait Youssouf, rougissant de plaisir, quand il répondit que tant qu'il serait en vie, personne ne ferait de mal à sa mère ni à sa grand-mère. Youssouf avait cependant accompagné son père jusqu'à la rivière, puis il était retourné à la maison. Depuis, Hadji Mourad n'avait revu ni sa femme, ni sa mère, ni son fils. Et c'était ce fils auquel Chamil voulait crever les yeux. Quant à ce qu'on ferait de sa famille, il n'y voulait pas même penser. Hadji Mourad s'était tellement ému à ses souvenirs qu'il ne pouvait plus tenir en place. Il se leva vivement, en boitant, s'approcha rapidement de la porte et, l'ouvrant, appela Eldar. Le soleil ne se montrait pas encore, mais il faisait déjà tout à fait clair. Les rossignols chantaient. « Va dire à l'officier que je désire faire une promenade et sceller les chevaux, » dit-il. Chapitre 24. La seule consolation qu'avait Butler pendant tout ce temps, c'était la poésie de la vie guerrière à laquelle il s'abandonnait, non seulement pendant le service, mais même dans la vie privée. Vêtu à la circassienne, il caracolait sur son cheval et deux fois alla en embuscade avec Bogdanovitch. Mais ils ne prirent ni ne tuèrent personne. Sa liaison et son amitié avec le héros connu, Bogdanovitch, avaient pour Butler quelque chose de très agréable et de très martial. Sa dette, il l'avait réglée en empruntant à un juif à un taux énorme, c'est-à-dire qu'il avait seulement ajourné et un peu éloigné la difficulté inextricable, sans la résoudre. Il tâchait de ne pas penser à sa situation, et pour obtenir l'oubli, outre la poésie de la vie guerrière, il avait recours au vin. Il buvait de plus en plus, et de jour en jour devenait moralement plus faible. Maintenant, il ne faisait plus le beau Joseph envers Marie Dmitrievna, au contraire, il s'était mis à lui faire grossièrement la cour. Mais, à son grand étonnement, il avait essuyé un refus des plus catégoriques, ce qui l'avait rendu fort honteux. À la fin d'avril, arriva dans la forteresse un détachement que Bariatinski envoyait pour opérer un nouveau mouvement à travers la Tchétchnia, réputée infranchissable. Deux compagnies du régiment de Kabardine faisaient partie de ce détachement, et ces compagnies, d'après la coutume établie au Caucase, étaient reçues en amis par celles qui se trouvaient à Kourinskoye. Les soldats se répartissaient dans les casernes, où on les régalait non seulement de soupe, de gruaux cuits et de viande, mais aussi d'eau-de-vie. Les officiers, eux, étaient les hôtes des officiers de la place, qui faisaient les honneurs aux nouveaux venus. Le régal s'était terminé par une beuverie et des chansons. Ivan Matveïevitch, non plus rouge, mais la mine terreuse tellement il était ivre, était assis à califourchon sur une chaise et faisait le moulinet contre des ennemis imaginaires avec son sabre qu'il avait tiré du fourreau. Tantôt il proférait des injures, tantôt éclatait de rire, tantôt embrassait les officiers, tantôt dansait sur sa chanson favorite. Hutler aussi était là. Il essayait de voir en tout ceci la poésie de la vie guerrière, mais au fond de son âme, il ressentait de la pitié pour Ivan Matveïevitch, qu'il ne voyait aucune possibilité de retenir. Sentant qu'à lui aussi le vin montait à la tête, Butler sortit sans se faire remarquer et se dirigea vers la maison. La lune, alors dans son plein, éclairait les maisonnettes blanches et les pierres de la route, et sa lumière était si vive que les cailloux, les brins de paille, le crottin de cheval, tout apparaissait très distinctement. Non loin de la maison, Butler rencontra Marie Dmitrievna, un fichu sur la tête et le cou. Depuis le refus qu'elle lui avait infligé, Butler, honteux, évitait de se trouver seul avec elle. Mais ce soir, au clair de lune, et à cause du vin bu, Butler se sentit joyeux de cette rencontre et fut repris du désir de lui conter Fleurette. « Où allez-vous » demanda-t-il. « Mais voir ce que fait mon vieux, » répondit-elle amicalement à Butler. Elle avait repoussé très sincèrement et très catégoriquement les avances de Butler, mais cependant elle était ennuyée de ce que, maintenant, il l'évita. « Mais pourquoi aller le voir ? Il viendra. »« Vous croyez ? S'il ne vient pas, on l'amènera. »« C'est ça, mais ce n'est pas bien. »« Alors, je n'y vais pas ?» fit Marie Dmitrievna. « Non, n'y allez pas. Allons plutôt à la maison. » Marie Dmitrievna retourna sur ses pas, à côté de Butler. La lune éclairait si brillamment qu'une sorte d'auréole entourait les arbres sur la route. Butler regardait cela et voulait dire à Marie Dmitrievna que malgré tout, elle lui plaisait, mais il ne savait comment commencer. Quant à elle, elle attendait ce qu'il allait dire. Ainsi, en silence, ils étaient arrivés déjà tout près de la maison, quand, au tournant, parurent des cavaliers. C'était un officier avec une escorte. « Qui nous envoie-t-on encore ?» dit Marie Dmitrievna en s'écartant de la route. La lune éclairait par derrière les cavaliers, de sorte que Marie Dmitrievna ne reconnut l'officier que quand il était déjà presque à côté d'eux. C'était Kameniev. Il avait servi autrefois avec Ivan Matveïevitch, c'est pourquoi Marie Dmitrievna le connaissait. « Piotr Mikhailovitch, c'est vous ?» lui dit-elle. « C'est moi-même, » répondit Kameniev. « Tiens, Butler, bonjour. Vous ne dormez pas encore ? Vous vous promenez avec Marie Dmitrievna ? Prenez garde, Ivan Matveïevitch n'est pas commode. Où est-il ? » « Tenez, vous entendez ?» dit Marie Dmitrievna, en indiquant le côté d'où venaient les sons de la musique et les chansons. « Ils font la noce. »« Quoi, ce sont les nôtres qui font la noce ?» Ils sont venus de Kissiv-Yurta, et voilà, on les régale. Ah, c'est bien, ça me réussira aussi. Je ne suis venu que pour une minute. Vous avez quelque affaire ? Demanda Butler. Oui, une petite affaire. Bonne ou mauvaise ? Cela dépend pour qui. Pour nous, c'est bon, mais pour quelqu'un d'autre, c'est mauvais. Kameniev se mit à rire. Tous trois arrivèrent à la maison d'Ivan Matveïevitch. « Tchikiriev ! » cria Kameniev à un cosaque. « Viens ici !» Un cosaque du Don se détacha du groupe et s'approcha. Il portait l'uniforme ordinaire des cosaques du Don. Il était chaussé de bottes, avait sur lui un manteau et, derrière sa selle, un sac. « Eh bien, sors-nous la chose !» dit Kameniev en descendant de cheval. Le cosaque détacha son sac. Kameniev y plongea la main. « Alors, voulez-vous que je vous montre la nouvelle ?»« Vous n'aurez pas peur ?» s'adressa-t-il à Marie Dmitrievna. « Peur de quoi » dit-elle. « Voilà !» dit Kameniev en retirant du sac une tête d'homme et la montrant en clair de lune. « La reconnaissiez-vous ? » C'était une tête rasée, aux arcades sourcilières proéminentes, avec la barbe noire et la moustache taillée. Un des yeux était ouvert, l'autre demi-fermé. Le crâne, rasé, était ensanglanté, fendu, et du sang noir était coagulé au bord des narines. Le cou était entouré d'une serviette sanguinolente. Malgré toutes ses blessures, le visage, dans le plissement des lèvres bleuies, gardait une expression enfantine, bonne. Marie Dmitrievna regarda, et sans mot dire, se détournant, à pas rapide rentra à la maison. Butler ne pouvait détacher ses yeux de l'effroyable tête. C'était la tête de ce même Hadji Mourad avec lequel, si récemment, il passait ses soirées en conversation amicale. « Comment cela ? Qui l'a tué ? » demanda-t-il. « Il a voulu s'enfuir. On l'a rattrapé, » dit Kameniev. Puis il remit la tête au cosaque et lui-même entra dans la maison avec Butler. « Et il est mort en brave, » ajouta-t-il. Mais comment tout cela est-il arrivé? Attendez, Ivan Matveïevitch va venir et je raconterai tout en détail. On m'a envoyé exprès. Je parcours toutes les forteresses et les aouls et je montre la tête. On avait envoyé chercher Ivan Matveïevitch. Tout ivre, accompagné de deux officiers ayant eux aussi beaucoup bu, il arriva à la maison et se jeta dans les bras de Kameniev. Et moi, dit Kameniev, « je vous ai apporté la tête de Hadji Mourad. »« Tu mens. On l'a tué ?»« Oui, il avait voulu s'enfuir. »« Je l'avais toujours dit qu'il nous tromperait. »« Alors, où est-elle, la tête ? Montre-la. » On appela le cosaque qui apporta le sac contenant la tête. On la retira du sac et Ivan Matveïevitch, les yeux ivres, la regarda longuement. « Eh, tout de même, c'était un brave, dit-il. » « Donne, je l'embrasserai. »« Oui, c'est vrai, c'était un brave, » dit l'un des officiers. Quand tous eurent examiné la tête, on la remit de nouveau au cosaque qui la replaça dans le sac, puis posa le sac sur le sol en tâchant de ne pas faire de bruit. « Eh bien, Kameniev, est-ce que tu racontes quelque chose quand tu la montres ?» demanda un officier. « Non, laisse-moi, je l'embrasserai. Il m'a fait cadeau d'un sabre. » criait Ivan Matveïevitch. Butler alla sur le perron. Marie Dmitrievna était assise sur la seconde marche. Elle se tourna vers Butler, mais aussitôt se détourna avec humeur. « Qu'avez-vous, Marie Dmitrievna ? » demanda Butler. « Tous, vous êtes des assassins. Je vous déteste. Je ne puis le supporter. Des bouchers, de vrais bouchers, » dit-elle en se levant. « Mais la même chose peut nous arriver à nous, c'est la guerre, » reprit Butler, ne sachant que dire. « La guerre, quelle guerre ? Des assassins, voilà tout. Un cadavre, il faut l'ensevelir. Et eux, ils plaisantent. De vrais assassins, » répéta-t-elle, et elle descendit les degrés du perron et entra dans la maison par la porte de service. Butler retourna dans la chambre et demanda à Kameniev de raconter en détail comment cela était arrivé. Et Kameniev se mit à raconter. Chapitre 25. Hadji Mourad avait l'autorisation de faire des promenades à cheval dans les environs de la ville, à la condition expresse d'être accompagné de cosaques. Il y avait en tout, à Nouka, une cinquantaine de cosaques, dont 10 servaient comme ordonnance chez les officiers, de sorte que pour faire escorte à Hadji Mourad, suivant l'ordre donné, on devait désigner 10 hommes chaque jour. Le premier jour, 10 cosaques sortirent avec Hadji Mourad, mais ensuite on décida que 5 suffiraient, à condition toutefois que Hadji Mourad ne prendrait pas tous ses serviteurs. mais le 25 avril, il partit pour la promenade avec ses 5 hommes. Au moment où Hadji Mourad montait à cheval, l'officier remarqua que ses 5 serviteurs se préparaient à l'accompagner, et il lui fit observer qu'il n'avait pas l'autorisation de les emmener tous à la fois. Mais Hadji Mourad feignit de ne pas entendre, poussa son cheval, et l'officier n'insista pas. Parmi les Cosaques se trouvait un certain Nazarov, un garçon blond, jeune, fort, tout sang et lait, chevalier de la Croix de Saint-Georges. Il était l'aîné d'une famille de vieux croyants. Il avait perdu son père étant enfant et faisait vivre sa vieille mère, 3 sœurs et 2 frères. « Fais attention, Nazarov, ne le laisse pas aller loin !» lui cria l'officier. « J'y veillerai, votre seigneurie !» répondit Nazarov, et se soulevant sur ses étriers, il partit au trot sur son grand hongre bai en retenant le fusil derrière son dos. 4 Cosaques allaient avec lui. Ferapontov, long, maigre, grand voleur, qui avait vendu la poudre à Gamzalo. Ignatov, qui terminait son service militaire, paysan déjà plus jeune, vigoureux, et qui se vantait de sa force. Mishkin, tout jeunet, faible, et dont tout le monde se moquait. Enfin Petrakov, un jeune homme blond, fils unique, toujours calme et gai. Le matin, il y avait eu du brouillard, mais à l'heure du déjeuner, le temps s'était mis au beau et le soleil brillait sur les jeunes frondaisons de la forêt, sur l'herbe nouvelle, encore intacte, sur les champs de blé et à la surface de la rivière rapide qu'on apercevait à gauche de la route. Hadji Mourad allait au pas, escorté de ses serviteurs et des Cosaques. Ils suivirent ainsi au pas la route qui passait derrière la forteresse. Chemin faisant, ils rencontraient des femmes avec des paniers sur la tête, des soldats dans des chariots, des charrettes grinçantes attelées de buffles. Après avoir ainsi parcouru 2 verstes, Hadji Mourad stimula son cheval et se mit à aller si vite que ses serviteurs prirent le grand trot ainsi que les Cosaques. « Quel bon cheval !» dit Ferapontov. « Si je l'avais rencontré quand il n'était pas encore notre ami pacifié, ce que je l'aurais descendu de ce cheval !»« Oui, mon ami, à Tiflis, on donnerait 300 roubles pour ce cheval. »« Et moi, avec le mien, je le dépasserais, » dit Nazarov. « Comment donc tu le dépasserais ?» dit Ferapontov. Hadji Mourad accélérait toujours sa course. « Hé, ami, on ne peut pas aller si vite !»« Plus doucement !» cria Nazarov, en tâchant de rejoindre Hadji Mourad. Celui-ci se retourna et, sans rien dire, garda la même allure. « Fais attention, ils mijotent quelque chose, les diables !» dit Ignatov. « Vois comme ils marchent !» Ils firent ainsi une verste dans la direction de la montagne. « Je te dis que ce n'est pas permis !» cria de nouveau Nazarov. Hadji Mourad ne répondit pas et, sans retourner, accélérant l'allure, du trot passa au galop. « Ah non, tu ne t'enfuiras pas !» cria Nazarov, piqué au jeu. Il cravacha son grand hongre, et, debout sur les étriers, penché en avant, il se lança au grand galop derrière Hadji Mourad. Le ciel était si clair, l'air si pur, la force de la vie jouait si joyeusement dans l'âme de Nazarov, quand, ne faisant plus qu'un être avec son bon et fort cheval, il volait sur la route derrière Hadji Mourad, que la possibilité de quelque chose de tragique, de terrible, ne lui venait pas en tête. Il se réjouissait de ce que chaque bond le rapprochait de Hadji Mourad. Au bruit des sabots du grand cheval du Cosaque qui se rapprochait de lui, Hadji Mourad calcula que bientôt on allait le rejoindre. Alors, saisissant de la main droite son pistolet, de la main gauche il commença à retenir un peu son cheval de cabardine qui s'excitait en entendant derrière lui le piétinement d'un autre cheval. « Je te dis que ce n'est pas permis !» s'écria Nazarov, rejoignant presque Hadji Mourad et tendant la main pour saisir son cheval par la bride. Mais avant qu'il ait eu le temps d'attraper la bride, un coup éclatait. « Que fais-tu ? » s'écria Nazarov en portant la main à sa poitrine. « Ami, frappez-les » cria-t-il, et après quelques oscillations, il tomba sur l'arçon de sa selle. Mais les montagnards avaient saisi leurs armes avant les Cosaques et tiraient sur eux des coups de pistolet et les frappaient de leurs sabres. Nazarov était cramponné à l'encolure de son cheval, qui le portait auprès de ses camarades. Le cheval d'Ignatov s'était abattu en lui brisant la jambe. 2 montagnards sortirent leurs sabres, et sans descendre le cheval, le frappèrent à la tête et au bras. P. Petrakov s'élança au secours de ses camarades, mais deux coups, l'un dans le dos, l'autre dans le côté, l'abattirent et, comme un sac, il tomba de cheval. Michkine tourna bride et s'élança dans la direction de la forteresse. Kanefi et Bata se jetèrent à sa poursuite, mais il était déjà loin, si loin que les montagnards ne pouvaient le rejoindre. Désespérant d'atteindre le Cosaque, Kanefi et Bata retournèrent vers les leurs. Gamzalo, après avoir achevé d'un coup de poignard Ignatov, fit de même pour Nazarov. Bata le descendit de son cheval et lui prit son sac de cartouches. Kanefi voulait prendre le cheval de Nazarov, mais Hadjimourad lui cria qu'il ne le fallait pas, et il galopa en avant sur la route. Les Murides le suivaient en chassant le cheval de Nazarov qui courait derrière eux. Ils étaient déjà à trois verstes de Nouka, au milieu des champs de riz, quand de la tour retentit un coup de canon. C'était le signal d'alarme. Petrakov était couché sur le dos, le ventre ouvert, son jeune visage tourné vers le ciel, et, en bâillant comme un poisson, rendait l'âme. « Mes aïeux, mon Dieu, qu'ont-il fait ? » s'écriait le commandant de la forteresse en se saisissant la tête à deux mains, quand on vint lui annoncer la fuite de Hadjimourad. « Ils m'ont tué ! Ils ont laissé échapper le brigand !» s'écriait-il en écoutant le récit de Michkine. L'alarme était donnée partout, et non seulement tous les Cosaques qui étaient présents étaient envoyés à la poursuite des fugitifs, mais on envoya aussi tous les miliciens des Aouls pacifiés qu'on put réunir. 1000 roubles de récompense furent promis à celui qui ramènerait Hadjimourad mort ou vif. Et 2 heures après que Hadjimourad et ses compagnons, tuant les Cosaques, s'étaient enfuis, plus de 200 cavaliers galopaient derrière l'officier de police pour retrouver et saisir les fuyards. Après avoir fait quelques pas sur la grande route, Hadjimourad arrêta son cheval blanc, devenu gris de sueur, qui respirait péniblement. À droite de la route se voyaient les cabanes et le minaret de la houle Benerjik. À gauche s'étendaient les champs à l'extrémité desquels s'apercevait la rivière. Le chemin de la montagne était à sa droite, mais Hadjimourad tourna du côté opposé à gauche, comptant que ceux qui le poursuivraient prendraient précisément à droite. Il projetait, après avoir traversé la Lazane, de sortir sur la grande route où personne ne l'attendrait, de suivre cette route jusqu'à la forêt, et alors, après avoir de nouveau traversé la rivière, d'aller dans la montagne. En ayant décidé ainsi, il tourna à gauche. Mais il se trouva qu'il était impossible d'arriver par là jusqu'à la rivière. Les champs de riz qu'il fallait traverser, comme cela arrivait toujours au printemps, venaient d'être inondés et étaient transformés en de véritables mares dans lesquelles les chevaux s'embourbaient jusqu'au-dessus du pâturon. Hadjimourad et ses serviteurs prenaient tantôt à droite, tantôt à gauche, espérant trouver un endroit plus sec, mais les champs sur lesquels ils étaient tombés étaient tous uniformément recouverts d'eau. Les chevaux, avec un bruit de bouteille qu'on débouche, retiraient leurs jambes de la boue où elles s'enfonçaient, et, après avoir fait quelques pas, en respirant lourdement, s'arrêtèrent. Ils étaient restés si longtemps là-bas que la nuit commençait à venir et ils n'étaient pas encore près de la rivière. À gauche, il y avait une petite futaie toute feuillée. Hadjimourad résolut de se rendre là et d'y rester jusqu'à la nuit pendant que les chevaux se reposeraient. Arrivés à la futaie, Hadjimourad et ses hommes mirent pied à terre, entravèrent les jambes de leurs chevaux et les laissèrent paître, tandis qu'eux-mêmes mangeraient du pain et du fromage qu'ils avaient emporté avec eux. La lune, qui d'abord éclairait, se cacha derrière la montagne et la nuit devint sombre. À Nouka, il y avait beaucoup de rossignols. 2 se trouvaient dans ce bois. Tout le temps que Hadjimourad et ses hommes firent du bruit en s'installant, les rossignols se turent. Mais quand les hommes cessèrent leur bruit, ils se remirent à chanter en se répondant. Hadjimourad écoutait les bruits de la nuit et entendait aussi les rossignols. Et leur chant lui rappelait la chanson de Gamzat qu'il avait entendue la nuit précédente en allant chercher de l'eau. Maintenant, d'un moment à l'autre, il pouvait se trouver dans la situation de Gamzat. Il pensait qu'il en serait ainsi, et tout d'un coup, il devint soucieux. Il déplia son manteau et fit son ablution. À peine l'avait-il terminé qu'on entendit un bruit qui se rapprochait du bois. C'était le bruit d'une grande quantité de sabots de chevaux qui clapotait dans la mare.
Bata, qui avait une vue très perçante, courut à la lisière et distingua dans l'obscurité une foule de cavaliers et de piétons.
Canefi aperçut une foule pareille de l'autre côté. C'était Karganov, un chef militaire, avec ses miliciens.
« Eh bien, nous nous battrons comme Gamzat, » pensa Hadji Mourad.
Quand l'alarme avait été donnée, Karganov, avec une centaine de miliciens et de cosaques, s'était jeté à la poursuite de Hadji Mourad. Mais nulle part il n'avait trouvé même ses traces. Il retournait déjà sans aucun espoir, quand, vers le soir, il avait rencontré un vieillard auquel il avait demandé s'il n'avait pas vu des cavaliers. Le vieillard répondit affirmativement. Il avait vu 6 cavaliers tourner sur le champ de riz et se retirer dans la futaie où lui-même ramassait du bois.
Karganov, prenant avec lui ce vieillard, était retourné et, à la vue des chevaux entravés, sûr que Hadji Mourad se trouvait là, la nuit venue il avait contourné le bois et se préparait à attendre le matin pour s'emparer de Hadji Mourad, vivant ou mort. Comprenant qu'ils étaient cernés, Hadji Mourad, qui avait remarqué au milieu de la futaie un petit fossé, résolut de s'y retrancher et de se défendre tant qu'ils auraient des cartouches et des forces. Il fit part de sa résolution à ses compagnons et leur ordonna de construire une tranchée le long du fossé. Aussitôt, les serviteurs se mirent à couper des branches, à creuser la terre avec leurs poignards, à faire un remblai. Hadji Mourad travaillait avec eux. Aussitôt que le jour commença à poindre, le commandant des miliciens s'approcha du bois et cria « Hé, hé, Hadji Mourad, rends-toi, nous sommes nombreux et vous êtes en petit nombre. » En réponse, du fossé se montra une petite fumée, un coup de fusil retentit et une balle vint frapper le cheval d'un milicien. Le cheval vacilla puis s'abattit. Aussitôt éclatèrent les coups de fusil des miliciens qui se trouvaient à la lisière du bois et leurs balles, sifflant et bourdonnant, coupèrent des feuilles, des branches, frappèrent le remblai, mais sans atteindre les âmes assis dans la tranchée. Mais le cheval de Gamzalo, qui s'était écarté, reçut une balle dans la tête. Il ne tomba pas, et, brisant ses entraves, il courut à travers les arbustes, rejoindre les autres chevaux, et se serra contre eux en arrosant de son sang la jeune herbe. Hadji Mourad et ses âmes ne tiraient que quand quelqu'un des miliciens s'avançait, et rarement ils manquaient leur but. 3 des miliciens étaient blessés, et non seulement ils ne se décidaient pas à se jeter sur Hadji Mourad et ses hommes, mais ils reculaient de plus en plus et ne tiraient que de loin, à l'aveugle. Cela dura plus d'une heure. Le soleil était maintenant à mi-hauteur d'arbre, et Hadji Mourad songeait déjà à monter à cheval et à essayer de se frayer un chemin jusqu'à la rivière, quand s'entendirent les cris d'une grande troupe de nouvelles recrues. C'était Hadji Aga, de Mektoulinsk, avec ses hommes. Ils étaient 200. Hadji Aga avait été autrefois l'ami de Hadji Mourad et avait vécu avec lui dans les montagnes. Mais ensuite, il était passé aux Russes. Avec eux se trouvait Ahmed Khan, le fils de l'ennemi de Hadji Mourad. Hadji Aga, comme l'avait fait Karganov, commença par crier à Hadji Mourad de se rendre, mais cette fois encore, un coup de feu fut la réponse.
« Sabre au clair, enfant !» cria Hadji Aga en brandissant le sien.
Et l'on entendit les voix des centaines d'hommes qui se jetaient, en criant, dans la futaie. Les miliciens accouraient, mais de la tranchée, l'un après l'autre, partaient des coups de fusil. 3 hommes tombèrent. Les attaquants n'allèrent pas plus avant, et à la lisière du petit bois, commencèrent aussi à tirer. Ils tiraient en se rapprochant peu à peu de la tranchée et se cachant d'un arbre à l'autre. Quelques-uns réussirent la manœuvre, d'autres tombèrent sous les balles de Hadji Mourad et de ses hommes. Hadji Mourad ne ratait pas un coup. De même, Gamzalo tirait rarement un coup sans résultat et chaque fois qu'il croyait que sa balle avait porté, faisait entendre un grognement joyeux. Khan Magom, assis au bord de la tranchée, chantait « Il y a qu'à, il l'a là, et tirait sans se hâter. Mais il atteignait rarement son but. Quant à Eldar, tout son corps tremblait de son impatience à se jeter sur les ennemis le poignard à la main. Il tirait souvent, n'importe où, et sans cesse, se retournant vers Hadji Mourad, se montrait au-dessus de la tranchée. Le velu Canefi, les manches retroussées, même ici, faisait office de serviteur. Il chargeait les armes que lui passaient Hadji Mourad et Khan Magom, enfonçant soigneusement avec la baguette les balles entourées de capsules non huilées et mettant de la poudre sèche. Quant à Bata, il n'était pas comme les autres dans la tranchée. Il courait de la tranchée aux chevaux, les menant dans l'endroit le moins exposé, et sans cesse poussait des cris et tirait. Il fut blessé le premier. Une balle le frappa au cou, et il s'assit par terre en crachant le sang et proférant des injures. Puis ce fut le tour de Hadji Mourad. Une balle lui déchira l'épaule, il arracha de l'ouate de son béjmet, en tamponna sa blessure et continua à tirer. « Jetons-nous sur eux avec nos sabres !» dit Eldar pour la troisième fois. Il regarda derrière la tranchée, prêt à fondre sur les ennemis, mais au même moment une balle l'atteignit. Il chancela et tomba à la renverse sur la jambe de Hadji Mourad. Hadji Mourad le regarda. Les beaux yeux de brebis regardaient fixement et sérieusement Hadji Mourad. La bouche, avec sa lèvre inférieure proéminente comme chez les enfants, remuait sans s'ouvrir. Hadji Mourad dégagea sa jambe et continua à tirer. Kanefi se pencha sur Eldar tué et retira de sa tcherkesska les cartouches non usées. Khan Magom, pendant ce temps, chantait toujours, chargeait lentement et tirait. Les ennemis couraient d'un arbre à l'autre et se rapprochaient de plus en plus, en poussant des cris aigus. Une seconde balle frappa Hadji Mourad dans le côté gauche. Il se coucha dans le fossé et, arrachant de nouveau un peu d'ouate de son béchmet, tamponna la blessure. Mais cette blessure était mortelle. Il sentit qu'il se mourait. Les souvenirs et les images, avec une rapidité extraordinaire, les uns après les autres, passaient devant lui. Tantôt il revoyait l'athlétique Abounounsan Khan, retenant d'une main sa joue fendue, pendante, et de l'autre, armé du poignard, se jetant sur l'ennemi. Tantôt il revoyait le vieillard anémier Vorontsov, avec son visage pâle, rusé, et il entendait sa voix douce. Tantôt il revoyait son fils Youssouf, tantôt sa femme Sofiat, tantôt le visage pâle, à la barbe rousse et les yeux clignotants, de son ennemi Shamil. Et tous ces souvenirs traversaient son imagination, sans provoquer en lui aucun sentiment, ni pitié, ni colère, ni désir. Tout cela paraissait si petit en comparaison de ce qui déjà commençait pour lui. Cependant, son corps énergique continuait la besogne commencée. Rassemblant ses dernières forces, il se souleva et de la tranchée tira un coup de pistolet sur l'homme qui accourait. Il avait visé juste, l'homme tomba. Ensuite, il sortit complètement de la tranchée et, le poignard à la main, emboîtant lourdement, alla droit au-devant de ses ennemis. Quelques coups éclatèrent. Hadji Mourad chancela et tomba. Des miliciens, avec des hurlements de triomphe, se jetèrent sur le corps abattu. Mais le corps, qui paraissait mort, tout à coup remua. D'abord se souleva la tête rasée, nue, ensanglantée. Ensuite le tronc, et, s'accrochant à un arbre, il se releva. Il paraissait si terrible que ceux qui accouraient s'arrêtèrent. Mais soudain il tressaillit, se détacha de l'arbre, et comme la bardane, tomba face à terre et ne bougea plus. Il ne remuait plus, mais il sentait encore. Quand le premier qui accourut jusqu'à lui le frappa de son poignard sur la tête, il sembla à Hadji Mourad que quelqu'un lui donnait un coup de marteau sur le crâne. Mais il ne pouvait comprendre qui le faisait et pourquoi. C'était la dernière conscience de son lien avec son corps. Maintenant, il ne sentait plus rien. Ses ennemis piétinaient et sabraient ce qui déjà n'avait plus rien de commun avec lui. Hadji Aga mit le pied sur le dos, en deux coups trancha la tête, puis, avec précaution, pour ne pas salir ses chaussures, la repoussa du pied. Le sang rouge vif jaillit des artères du cou. Un sang noir coula de la tête et arrosa l'herbe. Karganov, Hadji Aga, Ahmed Khan et tous les miliciens, comme des chasseurs autour de la bête tuée, firent cercle autour du corps de Hadji Mourad et de ses hommes. Ils lièrent Kanefi, Khan Magom et Gamzalo, et, dispersés dans la futaie, noyés dans la fumée de la poudre, ils couraient joyeusement et triomphaient. Les rossignols qui s'étaient tus pendant la fusillade, de nouveau se mirent à chanter, d'abord un seul tout près, puis les autres dans le lointain. C'est cette mort que la bardane écrasée au milieu du champ labouré m'a remis en mémoire.